Un imposteur? Je ne crois pas qu'il ait la capacité d'être un imposteur à cette échelle. Si l'on met en doute la possibilité de la Renaissance, comment expliquer les connaissances extraordinaires d'Arthur Flowerdew? On pourrait arguer qu'il avait lu certains ouvrages sur Petra, ou même pu recevoir sa connaissance par télépathie. Pourtant, les faits sont là. Certaines des informations qu'il fut capable de donner étaient connues, étaient inconnues des spécialistes eux-mêmes. Bonjour. Et bienvenue dans la quatrième dimension. Le livre tibétain de la vie et de la mort par Sogyal Rinpoché. Première partie, la vie. Ramener l'esprit en lui-même. L'inspiration. J'ai dit que la méditation est la voie de l'éveil et la démarche la plus essentielle de cette vie. Chaque fois que je parle de méditation à mes étudiants, j'insiste toujours sur la nécessité d'une discipline résolue et d'un engagement déterminé. En même temps, je souligne combien il est important d'effectuer la pratique avec autant d'inspiration et de créativité que possible. En un sens, la méditation est un art, et vous devrez venir à elle avec toute la joie et l'imagination fertile d'un artiste. Soyez aussi ingénieux à susciter l'inspiration qui vous ouvrira à votre propre paix intérieure que vous l'êtes quand il s'agit de vous livrer à la compétition, de vous adonner aux activités névrotiques qui ont cours dans la société. Il y a tant de façons d'approcher la méditation dans la joie. Écoutez une musique qui vous touche et laissez-la vous pénétrer profondément. Rassemblez des poèmes, des citations ou des extraits d'enseignements qui vous ont ému au fil des années et ayez-les toujours près de vous pour vous inspirer. J'ai toujours aimé les tankas. Ces peintures tibétaines, leur beauté m'élève l'âme. Vous pouvez vous aussi trouver des reproductions de peintures qui éveillent en vous le sens du sacré et les accrocher au mur de votre chambre. Vous pouvez écouter une cassette de l'enseignement d'un grand maître ou de chants sacrés. Vous pouvez faire du lieu où vous méditez un paradis, tout simple, grâce à une fleur, un bâton d'encens, une bougie, la photo d'un maître qui a atteint l'éveil ou la statue d'une déité ou d'un Bouddha. Vous pouvez transformer la pièce la plus ordinaire en un espace intime et sacré où, chaque jour, vous viendrez à la rencontre de votre être véritable avec le bonheur et la célébration joyeuse d'un vieil ami qui a un salut à un autre. Et si vous trouvez difficile de pratiquer la méditation chez vous, en ville, faites preuve d'imagination, partez dans la nature. La nature est toujours une source d'inspiration inépuisable. Pour calmer votre esprit, promenez-vous dans un parc à l'aube ou admirez la rosée posée sur la rose d'un jardin. Allongez-vous sur le sol et contemplez le ciel. Laissez votre esprit se perdre dans son immensité. Que le ciel extérieur éveille le ciel intérieur de votre être. Debout près d'un ruisseau, laissez votre esprit se mêler à la course de l'eau. Unissez-vous à son murmure incessant. Asseyez-vous près d'une cascade et laissez son chant apaisant purifier votre esprit. Marchez le long de la mer et laissez le vent du large caresser votre visage. Célébrez le clair de lune. Que sa beauté emplisse votre esprit de grâce. Asseyez-vous près d'un lac ou dans un jardin. Et tout en respirant paisiblement, laissez le silence s'établir en vous, tandis que la lune monte, lentement et majestueusement, dans la nuit claire. Tout peut ainsi devenir une invitation à la méditation. Un sourire, un visage aperçu dans le métro, la vue d'une petite fleur poussant dans l'interstice d'un trottoir, une cascade d'étoffes chatoyant dans une vitrine, un rayon de soleil illuminant des fleurs sur le rebord d'une fenêtre. Soyez à l'affût de chaque manifestation. De chaque manifestation de beauté et de grâce. Offrez chaque joie, soyez à tout moment attentif aux messages émanant sans cesse du silence. Lentement, vous deviendrez maître de votre propre félicité, alchimiste de votre propre joie, ayant toutes sortes de remèdes à portée de main pour élever, égayer, éclairer et inspirer chacune de vos respirations et chacun de vos mouvements. Qu'est-ce qu'un grand pratiquant spirituel? C'est une personne qui vit constamment dans la présence de son être véritable, qui a trouvé la source d'une inspiration profonde et s'y abreuve continuellement. Ainsi que l'écrivait l'auteur anglais contemporain Lewis Thompson, le Christ, poète suprême, a vécu la vérité si passionnément que chacun de ses gestes, à la fois acte pur et symbole parfait, incarne le transcendant. Incarner le transcendant est notre raison d'être en ce monde. Évolution, karma et renaissance. En cette nuit décisive où le Bouddha atteignit l'éveil, il y parvint dit-on, en plusieurs étapes. Dans la première, son esprit étant recueilli et purifié, immaculé, libre de toute imperfection, souple, malléable, stable et inébranlable. Il tourna son attention vers le souvenir de ses vies passées. Voici ce qu'il nous dit de cette expérience. Je me souvins de multiples existences antérieures. Une naissance, deux naissances, trois, quatre, cinq, cinquante, cent, cent mille. Dans diverses ères cosmiques. Rien ne m'était inconnu. Le lieu de naissance, le nom qui fut le mien, la famille dans laquelle je naquis et ce que j'accomplis. Je revécus les circonstances favorables et défavorables de chaque vie, ainsi que chaque mort. Je renaquis un nombre incalculable de fois. Je me souvins, ainsi, d'innombrables existences antérieures avec leurs caractéristiques précises et les circonstances particulières qui furent les leurs. C'est au cours de la première veille de la nuit que me vint cette connaissance. Depuis l'aube de l'histoire, la plupart des religions du monde ont accordé une place essentielle à la réincarnation et ont cru profondément en une vie après la mort. Les premiers chrétiens croyaient à la renaissance. Et cette foi persista, sous diverses formes, pendant une bonne partie du Moyen-Âge. Origène, l'un des pères de l'Église les plus influents, croyait à la préexistence des âmes et écrivait au IIIe siècle. Chaque âme vient au monde fortifiée par les victoires de ses vies passées ou affaiblie par leurs défaites. Bien que le christianisme ait fini par rejeter la croyance en la réincarnation, on en trouve encore des traces dans la pensée de la Renaissance, dans les écrits de poètes romantiques comme Blake ou Shelley, et même, ce qui peut sembler plus étonnant, chez un écrivain comme Balzac. Depuis qu'un intérêt s'est manifesté pour les religions orientales, à la fin du XIXe siècle, un nombre croissant d'occidentaux en est venu à accepter les connaissances hindoues et bouddhistes sur la Renaissance. L'un d'eux, le grand industriel et philanthrope américain Henry Ford, écrivait. J'ai adhéré à la théorie de la réincarnation quand j'avais 26 ans. La religion ne me contentait pas, même le travail ne parvenait pas à me donner entière satisfaction. Celui-ci est vain si l'on ne peut employer dans une autre vie l'expérience accumulée dans l'expérience présente. Quand je découvris la réincarnation, le temps ne me fut plus compté. Je cessais d'être esclave des aiguilles de la pendule. Je voudrais pouvoir partager avec d'autres la sérénité qu'apporte une perspective plus étendue de la vie. La plupart des gens, cependant, n'ont encore que des notions extrêmement vagues de la vie après la mort. Ils n'ont aucune idée de ce qu'elle peut être. Des personnes me disent souvent combien il leur est difficile de croire une chose dont elles n'ont pas de preuves. Mais l'absence de preuves signifie-t-elle forcément que cette chose n'existe pas? Après tout, disait Voltaire, il n'est pas plus étonnant de naître une deux fois qu'il ne l'est de naître une fois. On me demande fréquemment si nous avons déjà vécu avant cette vie. Pourquoi n'en avons-nous pas gardé le souvenir? Mais le fait de ne pas nous rappeler nos vies passées ne signifie pas que nous n'avons jamais vécu auparavant. Après tout, des événements de notre enfance ou de la veille, ou même ce que nous pensions il y a une heure, étaient des expériences très nettes au moment où elles eurent lieu. Mais le souvenir que nous en avons s'est presque totalement évanoui, comme si elles n'avaient jamais existé. Si nous ne parvenons pas à nous souvenir de ce que nous avons fait ou pensé la semaine dernière, comment pouvons-nous imaginer qu'il serait aisé ou normal de nous rappeler ce que nous avons fait dans une existence antérieure? Parfois, je provoque légèrement les gens en leur demandant « Qu'est-ce qui vous rend si certain qu'il n'y a pas de vie après la mort ? Quelles preuves en avez-vous ? Et si vous mourrez dans le refus de cette éventualité et découvrez qu'il existe bien une vie après celle-ci, que ferez-vous alors ? Ne vous limitez-vous pas vous-même en vous persuadant que cela est impossible. Ne serait-il pas plus sensé d'accorder à l'éventualité d'une vie après la mort le bénéfice du doute, ou de rester au moins ouvert à une telle possibilité, même s'il n'existe pas ce que l'on pourrait appeler des preuves tangibles? Que constituerait pour vous une preuve tangible de la vie après la mort? Je leur demande alors de réfléchir au fait que toutes les grandes religions expriment leur croyance en une vie future, et que tout au long de l'histoire, des millions de personnes, y compris les philosophes, les sages et les génies créateurs les plus éminents d'Asie, ont vécu cette croyance comme une part essentielle de leur existence. Étaient-ils tous purement et simplement dans l'erreur? Revenons à la question de la preuve tangible. Le simple fait que nous n'ayons jamais entendu parler du Tibet ou que nous n'y soyons jamais allés ne signifie pas qu'il n'existe pas. Avant que l'immense continent américain ne fût découvert, quel Européen pouvait s'imaginer qu'il existât? Et même après sa découverte, certains contestèrent encore que celle-ci ait vraiment eu lieu. C'est, je crois, notre vision terriblement limitée de l'existence qui nous empêche d'accepter ou même de commencer à envisager sérieusement la possibilité d'une renaissance. L'histoire, heureusement, ne s'arrête pas là. Ceux d'entre nous qui s'engagent dans une discipline spirituelle, par exemple la méditation, en viennent à découvrir sur leur propre esprit bien des choses dont ils ne se doutaient pas auparavant. Car lorsque nous ouvrons progressivement à l'existence extraordinaire, vaste et jusque-là insoupçonnée de la nature de l'esprit, nous commençons à entrevoir une dimension entièrement différente, au sein de laquelle se dissipent peu à peu toutes nos présomptions sur une identité et une réalité que nous croyions fort bien connaître. L'éventualité d'autre existence que celle-ci nous paraît au moins vraisemblable. Nous pressentons la vérité de tout ce que les maîtres nous ont enseigné sur la vie, la mort et sur la vie après la mort. Quelques preuves évocatrices de renaissance. Les témoignages récents de ceux qui déclarent se rappeler leur vie antérieure forment à ce jour une littérature importante. Si vous désirez parvenir à une compréhension sérieuse du sujet, je vous suggère d'examiner ces témoignages avec un esprit ouvert, mais avec tout le discernement possible. Parmi les centaines d'histoires ayant trait à la réincarnation et qui pourraient être relatées ici, en voici une que je trouve particulièrement intéressante. Il s'agit d'un homme âgé, Arthur Flowerdew, vivant dans le Norfolk, en Angleterre. Depuis l'âge de 12 ans, lui venaient à l'esprit des images inexplicables, mais très nettes, de ce qui ressemblait à une grande cité entourée d'un désert. Une des images les plus fréquentes évoquait un temple qui semblait sculpté dans la falaise. Ces images surprenantes lui apparaissaient souvent, surtout quand il jouait sur la plage, près de sa maison, avec des galets roses et oranges. À mesure qu'il grandissait, les détails de la cité visionnaire se faisaient plus précis. Il voyait davantage de constructions, ainsi que le plan des rues, des soldats et un défilé étroit qui servait de voie d'accès à la cité. Les années passèrent. Et un jour, Arthur Flowerdew vit à la télévision, tout à fait par hasard, un documentaire sur l'ancienne cité de Petra, en Jordanie. Il fut stupéfait d'avoir devant les yeux, pour la première fois, le lieu qu'il avait si longtemps contemplé en esprit. Il déclara par la suite n'avoir jamais feuilleté le moindre livre sur Petra. Le public, cependant, finit par entendre parler de ses visions et il participa à une émission télévisée de la BBC, ce qui lui valut d'attirer l'attention du gouvernement jordanien. Celui-ci lui offrit un voyage en avion en compagnie d'un réalisateur de la BBC, engagé pour filmer ses réactions devant Petra. Auparavant, le seul voyage d'Arthur Flowerdew à l'étranger avait été un bref séjour sur les côtes françaises. Avant le départ de l'expédition, Arthur Flowerdew fut présenté à un éminent spécialiste de Petra, auteur d'un ouvrage sur cette cité antique. Celui-ci l'interrogea minutieusement et fut troublé par la précision de son savoir. Certains détails, dit-il, ne pouvaient être connus que d'un archéologue spécialisé dans ce domaine. Avant de se rendre en Jordanie, Arthur Flowerdew fit une description de Petra que la BBC enregistra, afin de pouvoir la comparer avec ce qu'il verrait sur place. Trois lieux semblaient se distinguer plus particulièrement dans sa vision de Petra. Un étrange rocher en forme de volcan aux abords de la cité. Un petit temple où il pensait avoir été tué au 1er siècle avant notre ère. Et une construction inhabituelle, dans la cité même que les archéologues connaissaient bien, sans jamais avoir pu en définir la fonction. Le spécialiste de Petra ne pouvait se souvenir d'un tel rocher et douter qu'il existât. Mais quand il montra à Arthur Flowerdew un cliché de la partie de la cité où s'était élevé le temple, celui-ci, à sa stupéfaction, lui indiqua presque exactement l'endroit. Le vieil homme expliqua ensuite, posément, la fonction de l'édifice, qui n'avait jamais été envisagée jusqu'alors. C'était, d'après lui, le corps de garde où il avait servi comme soldat quelque 2000 ans auparavant. Bon nombre de ses prédictions se révélèrent exactes. Comme l'expédition s'approchait de Petra, Arthur Flowerdew indiqua le rocher mystérieux. Une fois dans la cité, il alla droit au corps de garde, sans un regard sur la carte, et expliqua comment fonctionnait le curieux système d'admission des gardes. Il se rendit enfin sur le lieu où il disait avoir été tué par une lance ennemie, au 1er siècle avant notre ère. Il indiqua également l'emplacement et la fonction sur le site d'autres constructions qui n'avaient pas encore été fouillées. L'archéologue spécialiste de Petra qui accompagnait Arthur Flowerdew ne pouvait s'expliquer les connaissances troublantes de cet Anglais très ordinaire. Il déclara: il a comblé des lacunes dans nos connaissances des détails. Et ces révélations concordent en majeure partie avec les faits archéologiques et historiques connus. Il faudrait un esprit très différent du sien pour être capable de soutenir une supercherie à l'échelle de ses souvenirs. Du moins, ce qu'il m'a rapporté. Je ne pense pas que ce soit un imposteur. Je ne pense pas que ce soit un imposteur. Je ne crois pas qu'il ait la capacité d'être un imposteur à cette échelle. Si l'on met en doute la possibilité de la Renaissance, comment expliquer les connaissances extraordinaires d'Arthur Flowerdew? On pourrait arguer qu'il avait lu certains ouvrages sur Petra, ou même pu recevoir sa connaissance par télépathie. Pourtant, les faits sont là. Certaines des informations qu'il fut capable de donner étaient connues, étaient inconnues des spécialistes eux-mêmes.